Bonsoir. Soulèvement samedi dernier des plus de 800 ex-combattants issus des mouvements armés de l'Est de la RDC dans les M23 au centre d'entraînement commando de Kotakoli dans la province de l'Équateur. Internés près de 2 ans avec leurs dépendants, ils dénoncent des mauvaises conditions d'hébergement. Ils réclament aussi soit leur départ immédiat de leur milieu d'origine, soit leur réintégration au sein des FRDC. Quelle est leur part de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 22 juin 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Aimé Ngoï Mukena, ministre de la Défense nationale, ancien combattant à réinsertion. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame.
Fabien Munguza, président de la coordination de la société civile de l'Équateur. Monsieur Munguza, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir aux co-débatteurs et aux auditeurs.
Et Didier Bitaki, expert en question des groupes armés. Monsieur Bitaki, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les co-débatteurs.
Merci de nous reporter en RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, plus de 800 ex-combattants issus de mouvements armés de l'Est de la RDC, dont les M23, se sont soulevés samedi 20 juin dernier au centre d'entraînement commando de Kotakoli, à environ 100 km de Badolité. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Internés depuis près de 2 ans avec leurs dépendants, ils réclament leur départ immédiat, soit pour la réintégration au sein des FRDC, soit pour leur retour au milieu d'origine. La société civile qui rapporte les faits a indiqué que ce mouvement a créé une vive tension dans ce centre. Les détails dans cet entretien entre Alain Irung et Dominique Wolombi.
Dominique Wolombi, bonsoir. Vous êtes l'un de nos correspondants dans la province de l'Équateur. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end à Kotakoli?
Le samedi, le centre d'entraînement commando de Kotakoli, à 90 km de Badolité, habite le site de transit des combattants à démobilisation venus du nord et sud Kivu, a connu une mutinerie. Le mutin, ce sont des combattants, plus de 820 parmi lesquels quelques éléments du M23 a rapporté la société civile locale. Ils ont déposé les armes depuis 2013, en quoi les sources concordantes, ils manifestaient là leur ras-le-bol du fait du retard de leur processus de réintégration. Avec des armes blanches, ils ont tenté samedi matin de s'emparer du dépôt d'armement, mais ces dépôts étaient fortement défendus par des militaires de garde. Ce mouvement de colère de ces combattants a paralysé les activités socio-économiques à Kotakoli. Les militaires ont lancé un ultimatum de 3 jours aux autorités pour trouver des solutions à leurs revendications. Ultimatum qui expire ce mardi. Nos sources estiment que ces énièmes soulèvements au centre d'entraînement commando de Kotakoli seraient aussi liés à une récente affaire de détournement de plus de 29 millions de francs congolais destinés à la restauration des stagiaires et leurs dépendants. Les officiers impliqués dans ces dossiers sont poursuivis depuis une semaine par l'auditorat militaire des Badolités.
Comment les autorités militaires locales ont-elles réagi?
Sur instruction de la hiérarchie a indiqué l'état-major de la 13e région militaire contacté, le commandant des 1303e régiment des FRDC basé à Badolité s'est rendu à Kotakoli où il est arrivé samedi soir pour s'enquérir de la situation. Il a tenté de regrouper ses combattants à démobilisation pour les moraliser. Ils ont refusé toute négociation. Le commandant de ce régiment serait finalement parvenu à les calmer et à les caserner au centre de transit de Kotakoli.
Quelle était la réaction de la population?
Tôt le matin, ce lundi, Une bonne partie de la population civile de Kotakoli qui s'était réfugiée dans la brousse est sortie de ses cachettes. Plus de 4000 personnes, hommes, femmes et enfants, sont descendues dans la rue. La population demandait aux autorités d'évacuer le plus rapidement possible les combattants à démobilisation à Kotakoli vers un autre centre de transit. Les manifestants réagissaient ainsi contre les exactions commises par les militants contre la population civile pendant leur soulèvement.
Pour terminer, quelles sont les mesures prises par les autorités après ce soulèvement ?
Nous ne sommes jusqu'à présent au courant d'aucune mesure prise localement par les autorités après ce soulèvement. Si ce n'est l'annonce faite par les ministres des médias et communications et porte-parole du gouvernement central, selon laquelle des dispositions sont en cours pour évacuer ces combattants à démobilisation vers les centres de transit de Kitona et de Tamina.
Merci Dominique Wolombi et bonne soirée à Mbandaka.
Merci.
Merci également à vous Alain Hungue et Dominique Wolombi. Emengo Imukena, je rappelle que vous êtes ministre de la Défense nationale et ancien combattant et réinsertion. Vous êtes sûrement au courant de la vive tension qui a régné au centre d'entraînement commando de Kotakoli le week-end dernier. Comment vous expliquez cela, monsieur le ministre?
Oui, bonsoir madame, je suis tout à fait au courant et je ne peux être qu'au courant. Comment j'explique la chose? Et je vous dis d'abord que j'étais un tout petit peu déçu, puisque les manifestants ou les ex-combattants qui se sont un peu énervés et qui se sont mis en colère savent tout à fait bien ce que le gouvernement est en train de faire pour eux. Ils n'ignorent rien. Ils savent que eux, sur les 12 000 ex-combattants qui ont déposé les armes, parmi les 12 000 qui ont déposé les armes, il y en a 4 830 qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, j'ai lancé l'opération DDR-3 à Kitona avec 2600 éléments, à Tamina 1700 éléments, et eux, ils savent qu'ils sont les 800 attendus à Tamina. Ils le savent très bien. Alors, je ne sais pas trop bien pourquoi qui leur a dit de se mettre en colère. Donc, je suis au courant, et eux, ils sont au courant du programme du gouvernement.
Mais entre-temps,
parce que le DDR ne se fait pas comme ça par hasard.
Mais entre-temps, monsieur le ministre, ces ex-combattants dénoncent les mauvaises conditions d'hébergement.
Madame, je ne les héberge pas. Je suis ministre, je donne tout ce qui est nécessaire. Et avant de confirmer cela, la radio Okapi, qui est aussi représentée un peu partout, à propos des conditions d'hébergement, la radio Okapi pourrait bien se demander aussi comment sont hébergés ceux qui sont à Kitona, comment sont hébergés ceux qui sont à Kamina. Et ces gens-là prennent 3 repas par jour, il n'y a personne pour me les contester. Évidemment, si les militaires en force, les militaires de la Défense nationale qui sont en activité ont un problème de logement, à plus forte raison, nos amis qui attendent la formation et la réinsertion. Donc, les conditions minimales sont réunies, madame.
Mais monsieur le ministre, il y a quelque temps à Kitona, ceux qui sont là se plaignaient aussi des conditions de vie dans ce centre de Kitona.
Madame, je vous demande, je demande toujours à la radio Capi d'être bien informée pour bien informer les gens. Parce qu'en fait, vous êtes un grand tam-tam, suivi par tout le monde. Si vous dites que la révolte de Kitona était due aux conditions d'hébergement, eux-mêmes, ceux qui se sont révoltés, peuvent vous contredire. Ils s'étaient dit que c'était dû à autre chose que je ne dois pas reprendre ici, parce que c'est déjà passé.
Alors, ça fait près de 2 ans que ces ex-combattants sont à Kotakoli, monsieur le ministre. 2 ans, est-ce que ce n'est pas beaucoup de garder ces gens-là dans ce centre?
Madame, imaginez-vous que nous avons réussi à regrouper à peu près 5 000 ex-combattants. 5 000 ex-combattants qui doivent avoir un programme, qui doivent suivre une formation, qui doivent sortir à la fin de la formation avec un brevet, avec une technique entre leurs mains. Et ça doit prendre du temps pour mettre en place un programme national. Donc, ce n'est pas un hasard. Nous ne les envoyons pas pour, dans les DDR pour blaguer. Non, madame. Il fallait aussi rassembler des moyens. Vous savez que notre pays sort des situations difficiles, mais notre pays doit quand même mettre en contribution 10 millions de dollars pour eux. Et la communauté internationale a mis aussi des moyens pour que nous puissions lancer le DDR. Ça a pris 2 ans, mais ça aurait dû prendre beaucoup de temps, madame. Mais ça a pris aussi 2 ans, parce que ces messieurs ont pris des armes. Mais il faut les mettre dans une condition, dans des conditions de psychologiques de désarmement. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu parce que, comme ministre de la réinsertion et de la réintégration, quelqu'un qui a déposé des armes, il suffit qu'il meure de faim, il reprend les armes. Vous voyez, ça fait un problème. Mais je ne m'en fais pas puisque, en fait, il y a des modules dans le DDR qui vont les aider à ne plus toucher aux armes.
Alors, ce matin, il y a eu une marche de la population de Kotakoli qui demande l'évacuation rapide de ces combattants parce qu'ils sentent la sécurité dans ce coin du pays.
Tout à fait, madame. Vous savez, à Kitona, ça a été la même chose. Nous avons 2600 personnes ex-combattants, mais il n'y a même pas un seul ressortissant de la province du Congo central. Nous avons 1700 ex-combattants nécessairement qui viennent de l'est de la province, mais il n'y a même pas un seul de Kamina. Mais les populations environnantes souffrent. Et je comprends très bien la réaction de la population de Kotakoli.
Merci.
Je leur donne raison.
Merci, Monsieur le Ministre. Fabien Munguza, président de la coordination de la société civile de l'Équateur. Quel lecture vous faites de cette situation, Monsieur Munguza?
Madame, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'exprimer toute ma compassion à cette population de Kotakoli qui est victime d'exactions provoquées par une situation dont elle n'est pas responsable. Permettez-moi également de condamner les actes de violence qui ont été perpétrés par ces éléments en pleine démobilisation. Parce que nous, à la société civile, nous pensons que la violence n'est pas la solution aux problèmes que nous rencontrons. Parce qu'au contraire, la violence ne fait que les aggraver. Et je crois que ces actes-là doivent être condamnés par tout homme de bon sens. Mais au-delà, madame, de ces considérations, nous pensons que notre gouvernement a été insensible aux alertes lancées par les organisations de la société civile, tant nationale qu'internationale, par rapport à la situation désastreuse dans laquelle étaient immergées toutes ces personnes qui viennent de se révolter. Ils ont connu des maladies, ils ont connu des morts. Et lorsqu'on a dénoncé ces situations, le gouvernement les a balayées d'un revers de la main. Mais aujourd'hui, les faits nous donne raison.
Mais nous apparemment, le ministre ne semble pas être d'accord.
À attribuer au gouvernement qui a manifesté une certaine démission, une certaine irresponsabilité. On ne peut pas maintenir dans ces conditions-là des hommes qui hier étaient armés et dont l'arme était le moyen de survie, madame.
Alors, dites-nous, décrivez-nous, monsieur Fabien Munguza.
Le gouvernement devrait écouter, n'est-ce pas, l'appel de la population qui a marché ce matin, pour que très rapidement une solution soit trouvée à cette situation.
Alors, monsieur Fabien Munguza,
on a failli également amener à une centaine de kilomètres de Mbandaka le FDLR, dans une presqu'île. Et il a fallu que la société civile puisse se dresser contre cette disposition-là pour que le gouvernement revienne à la raison. Je crois que hier, on nous avait traité d'antipatriotes. Aujourd'hui, on comprend que notre démarche était suffisamment sensée et qu'elle doit avoir permis d'éviter encore des choses plus graves à la province de l'Équateur.
Alors, M. Fabien Munguza, décrivez-nous un peu les conditions dans lesquelles ces ex-combattants vivent, parce qu'on a suivi le ministre tout à l'heure, qui nous a dit le problème d'hébergement ou des conditions de vie, c'était pas la raison pour laquelle ces ex-combattants se sont soulevés, parce qu'apparemment, selon le ministre, ils vivent dans de bonnes conditions, ils sont bien traités.
Non, madame, non, ce n'est pas possible. Nous avons les rapports de nos organisations qui sont sur place à Kotakoli et à Guadolité. Ils sont cantonnés dans des conditions
moins humaines. Ils sont mal nourris. Et vous avez lu les rapports de certaines organisations qui ont fait état de nombreux morts, même parmi les enfants, parmi les femmes qui sont morts à cause de la malnutrition, madame. Ils sont mal logés. Ils sont mal soignés pendant qu'ils sont malades. Je suis désolé que le ministre puisse dire ces choses. Il est inimaginable aujourd'hui qu'un ministre puisse dire que des conditions telles que celles-là, de malnutrition, de sous-alimentation, de mauvais soins, madame, ne puissent pas être la cause d'un soulèvement. C'est dommage. Nous l'avons connu comme étudiants, ces situations-là. Elles ont entraîné des révoltes graves. Et donc, je crois qu'il faut que le ministre, n'est-ce pas, essaye d'avoir les deux pieds sur terre pour assumer ses responsabilités auprès de ses amis qui se sont, n'est-ce pas, révoltés, mais également pour réparer les dégâts subis par la population de Kota Koli, qui est innocente par rapport à cette situation-là.
La population demande les départs ou l'évacuation le plus rapidement possible de ces combattants en démobilisation à Kota Koli. C'est tout un processus quand même qu'ils sont en train de suivre. Vous pensez que le gouvernement devrait répondre rapidement à cette préoccupation, cette demande de la population?
Oui, madame, c'est plus qu'urgent. Ce sont des vies humaines qui sont en danger. Nous avons alerté le gouvernement pour lui dire que la présence de ces groupes armés, n'est-ce pas, en voie de démobilisation à Kota Koli, était une bombe à retardement. Mais le gouvernement n'a pas cru nous entendre. Au contraire, à chaque action comme celle-là, le gouvernement réagissait par, n'est-ce pas, des formes qui ressemblaient plus au mépris. Et donc, maintenant, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, madame. Mettre ces gens dans des conditions plus humaines, les alimenter convenablement, leur donner une infrastructure qui puisse leur permettre de se faire soigner, de se comporter, vivre dignement, un cadre de vie acceptable et plus humain, madame. Pour, n'est-ce pas, un effectif de quelque chose comme plus de 800 personnes, un gouvernement responsable ne va pas dire qu'il manque le moyen pour cela. On est en train maintenant de dépenser des sommes d'argent énormes pour les consultations provinciales. Mais ce sont des questions qui étaient autrement plus urgentes, qu'il aurait fallu résoudre à temps. Nous avons l'impression que nos hommes politiques, madame, se préoccupent d'abord de ce qui est politique. Mais ce qui est social, pour eux, est toujours relégué au second plan.
Merci, Fadia. Merci, Fadia Mongouza.
Le droit à la vie, la vie est un droit fondamental pour tous les hommes sur cette terre, et rien ne peut être négligé par rapport à cela pour compromettre ses droits à la vie.
Merci Fabien Mungunza Didier Bitaki, expert en question des groupes armés. Quelle est votre analyse de cette situation?
Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas d'analyse particulière par rapport à cette question de ces ex-combattants qui sont dans des centres pour soit la démobilisation ou la réintégration. Encore une fois, faut-il comprendre ces termes. Mais je regrette qu'actuellement, le fait nous donne raison par rapport à une émission précédente que nous avons eu à discuter avec le coordonnateur national de l'UFMDDR, à qui j'ai brandi un carton rouge, franchement. Et même pour le ministre, je le respecte, mais il doit écoper aussi d'un carton jaune pour manquer de suivi du plan qu'il a mis en place et qui devait être traduit en acte par les structures appropriées de DDRRR. Madame, c'est très regrettable qu'aujourd'hui, on ait accepté volontairement de mettre la vie des citoyens congolais en danger en les exportant du nord qui vous vers la province de l'Équateur. Le regret, c'est qu'on ne sait pas, est-ce que ces jeunes gens qui se sont révoltés aujourd'hui sont allés dans les centres de Kota Koli parce qu'ils ont accepté d'intégrer l'armée nationale ou parce qu'ils ont opté pour la démobilisation? Parce que pour le premier cas, s'ils ont opté pour l'intégration de l'armée nationale, ils devaient subir une formation. Il devait être encadré, nourri et pris en charge comme tous les autres militaires des FARDC, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si c'était pour la démobilisation, je ne pense pas en aucune manière, en aucun seul instant, qu'on peut prendre quelqu'un du Nord Kivu. On l'amène à Kitona, à Kota Koli, à Kamina pour le démobiliser, parce que maintenant, là, après l'avoir démobilisé, et qu'il ait suivi le cursus normal pour atteindre la vie civile, qui devra les rapatrier vers son milieu d'origine? N'est-ce pas là encore une fois une façon de vouloir maintenir ces gens dans une situation où on les poussera plus tard à une révolte quelconque? Moi, je pense que, franchement, dans ce pays, on doit apprendre à bien déterminer ce qu'on veut faire et savoir les résultats auxquels on veut aboutir.
Et donc, si je comprends bien, Didier Bitaki, le fait d'avoir déplacé ces gens du Nord Kivu vers Kota Koli, c'était une mauvaise, c'était pas bien réfléchi de la part du gouvernement?
Mais absolument, parce qu'on les amène là-bas, parce qu'ils vont faire quoi? On les amène à Kota Koli pour en faire quoi? Des militaires ou on veut les démobiliser? Parce qu'on les met dans le cadre des DDRRR. Si c'est dans le cadre des DDRRR, je ne pense pas. Ou est-ce que, en tout cas, ces trois termes techniques parlent de l'intégration au sein des FADC. On parle de l'intégration dans la vie civile, de la réinsertion dans la vie civile, de la démobilisation, du désarmement. On les a désarmés où? On les a intégrés où? On veut les réinsérer dans quelle société? Chez eux.
C'est un processus, Didier Bitaki.
S'il vous plaît.
C'est tout un processus.
Mais ce processus doit se dérouler où ce n'est pas à des millions de kilomètres de leur milieu d'origine. Pour les démobiliser, ça doit se passer sur le terrain là où ils doivent être insérés dans leur société d'origine. Ce n'est pas à l'Équateur. D'ailleurs, je reconnais, je suis content que le ministre ait reconnu que la présence de ces gens-là fait souffrir la population du fait qu'ils n'ont aucune origine, ils n'ont aucun lien avec les familles qui se trouvent aux alentours, et cela pose problème. Pourquoi on doit les amener loin de chez eux et on n'est pas capable de les encadrer là où ils sont? Il faut quand même avoir l'élégance de comprendre les conseils.
Et donc, pour vous, ils doivent retourner dans leur milieu d'origine et être démobilisés là-bas?
S'il faut appliquer les DDRRR pour ces jeunes gens, il est encore temps. Il n'est pas question de les amener au Kamina comme on est en train de les penser, non plus à Kitona. Il faut les mettre dans un avion, on les ramène dans un centre où ils doivent subir la démobilisation, la réintégration ou la réinsertion. Pour ceux qui choisissent la vie militaire, il n'y a pas que la province de l'Équateur. Il y a d'autres centres de formation où on peut les amener. Mais il faudra encore plus qu'ils acceptent parce que si je peux rappeler bien, en 2009, nous avons tenté la même expérience. Il y a de ces combattants-là que nous avons amenés à Kitona et qui ont quitté Kitona jusqu'à Kinshasa, Kinshasa, Goma. Aujourd'hui, ils se retrouvent au sein des FRDC, d'autres dans les groupes armés parce qu'ils ont été mécontents là-bas. Je pense que l'expérience peut nous aider à comprendre et corriger les erreurs que nous avons commises dans le passé. C'est de revenir chaque jour à des révoltes à Kitona, des révoltes à Kamina, des révoltes à Kota Koli et bientôt ça pourra peut-être exploser pour devenir encore une nouvelle rébellion. Du fait de l'incompétence de ceux qui gèrent ce genre de programmes, mais aussi du manque de soucis pour la vie de ses concitoyens.
Monsieur,
ce sont des armes qu'on met en danger.
Monsieur Bitaki, le fait de retourner ces gens dans leur milieu d'origine, de les démobiliser, est-ce que ça ne risque pas de pousser certains à réintégrer des groupes armés? Est-ce que ce n'est pas la crainte?
Ah non, mais écoutez, si je peux vous rappeler aujourd'hui, est-ce que les groupes armés, du fait que ces gens aient quitté le Kivu, jusqu'à l'Équateur ou dans la province du Congo central. Est-ce que les groupes armés ont diminué ou alors ils ont augmenté encore une fois en nombre et en effectif? Leur présence ne constitue aucun danger pour l'équivalent parce qu'ils se sont rendus volontairement. Le problème, c'est que le signal qu'on est en train d'envoyer vers ceux qui se retrouvent actuellement dans les groupes armés est un signal négatif. Ça peut produire des conséquences que les autres risquent de s'entêter et ne plus accepter aucun autre processus.
Merci.
Moi, je conseillerais au ministre d'accepter que ce processus se déroule dans les techniques habituelles et les techniques du standard international que de le faire à la Congolaise.
Merci Didier Bitaki. Monsieur le ministre, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Fabien Kassonga depuis Kinshasa. Le gouvernement de la République a-t-il réellement la volonté de démobiliser et de réinsérer les ex-combattants vu le temps écoulé depuis qu'ils sont à Kota Koli? Au regard de la panique et exactions dont ils sont capables de créer dans la vie, peut-on dire que le gouvernement ne se penche pas trop sur cette question afin d'en finir une fois pour toutes?
Monsieur le ministre, vous nous avez rejoint dans ce studio. Alors, comment vous répondez à la préoccupation des Fabiens qui nous écrit depuis Kinshasa?
Merci beaucoup, madame. Mais d'abord, moi, je ne pense pas que j'ai des réponses à donner, que ce soit à M. Bitaki ou à l'autre, ou même à notre correspondant de tout à l'heure. Parce que tous, ils me donnent des conseils. Et comme c'est beaucoup de conseils...
Ils posent aussi des questions.
Oui, ils posent aussi des questions, mais bon, écoutez. Je voudrais d'abord commencer par un petit préalable. C'est devenu une culture presque pessimiste dans notre pays, de ne voir que des événements, même ceux qui sont tout petits, on les gonfle et on crée une occasion pour pouvoir s'attaquer au gouvernement. Notre armée aujourd'hui est en montée de puissance et elle est en train de le démontrer à toute occasion, que ce soit au M23 comme dans le cas de ces jeunes qui sont à Kotakoli. Mais c'est difficile que la radio Okapi organise une émission comme ça avec des experts pour jeter des fleurs à nos militaires. Il y a quand même des centaines, des milliers de militaires, des jeunes gens qui font des exploits
ici. On le sait, monsieur le ministre,
oui,
assurez-vous.
Oui, écoutez, alors je serai très content. Donc j'aimerais bien conseiller aussi aux amis qui me donnent des conseils. D'abord, je prends tous les conseils positivement. Le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement ne fait pas cela. Je suis membre du gouvernement. Je suis habité par une éthique des responsabilités. Donc je ne viens pas ici pour essayer de prouver que j'ai raison ou que j'ai tort. Mais je viens donner des informations. Je viens donner des informations que pour former 5000 personnes qui ont pris les armes, qui ont tué, qui se sont révoltées, qui ont pour des raisons, ils ont même touché au fétiche, ils ont quitté leur milieu parentaux, ils n'ont plus de parents, ils ne vivent plus sous la responsabilité des parents, ni même sous la responsabilité d'église. Le gouvernement est responsable. Parce que si vous arrivez quelque part, à Kamina ou à Kitona, vous allez voir que le comportement est en train de changer. Vous allez arriver qu'il prie, qu'il chante avec moi, etc. Donc,
et à Kotakoli, il faut le faire aussi là-bas, monsieur le ministre.
Oui, oui, à Kotakoli, c'était prévu déjà maintenant. Ils le savent, eux, même les gens de Kotakoli. Ils savent que nous avons enregistré et préparé 4830... 2500 quelque chose à Kamina, 2600 à Kitona. Aujourd'hui, nous avons lancé le DDR avec 4030. Les 800 sont ceux de Kitona, et de Kotakoli. Ils savent, ils attendent leur ministre, ils savent très bien. Ils connaissent le programme, que je vais sauter sur Kotakoli aussi, que nous allons les mettre dans un avion et qu'ils vont aller à Kamina. Mais je voudrais aussi souligner que lorsqu'on parle de humainement, lorsqu'on parle de conditions inhumaines, etc., je pense qu'il faut faire aussi attention à ce que le gouvernement fait. Donc, globalement, je ne réagis pas au conseil
qu'on me donne. Le gouvernement fait quoi concrètement, monsieur le ministre?
Le gouvernement, bientôt, va prendre les 800 combattants, ex-combattants, va les mettre devant des professeurs spécialisés, devant des instituteurs psychologues, psychanalytiques, devant des gens qui de métier, et ils rentreront dans leur pays. Je voudrais aussi quand même...
Et donc pendant tout ce temps, ils ne faisaient rien dans le camp le camp d'entraînement de commando.
Madame, je ne peux pas tout vous dire, parce qu'en fait, le désarmement, ce n'est pas seulement le fait de déposer les armes, c'est plutôt aussi déposer les cœurs des armes. Ça, c'est important. Et pendant ce temps, ils subissent ces exercices-là. Oubliez la guerre, pensez à leurs femmes, pensez à leurs enfants. Il y a des mamans qui ont laissé des enfants.
Sans manger, est-ce qu'ils vont suivre tout ce qu'on leur dit, monsieur le ministre? Lorsqu'ils mangent pas bien, lorsqu'ils doivent aller déranger la population pour trouver de quoi
manger.
Je voudrais inviter
monsieur Bitaki et l'autre à m'accompagner.
Mungunza.
Oui, Mungunza, à m'accompagner à Kotakoli, à Kamina et à bientôt, gratuitement, ils vont voir ces jeunes gens.
Merci, monsieur.
Voilà.
Merci.
Ça, c'est. Le gouvernement n'a pas besoin des paroles, n'a pas besoin des discours. C'est un gouvernement est conduit par une éthique de responsabilité. Je les invite. Et bientôt, on sera à Kotakoli. J'aimerais qu'ils viennent à Kotakoli, qu'ils viennent voir ces jeunes gens-là, où ils dorment, ce qu'ils mangent. Ils mangent même de la viande, ils mangent mieux que ceux qui n'ont pas encore pris les armes.
Merci, monsieur le ministre. Fabien Mungunza, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Beni, au Nord Kivu.
Serge Mapendano de Beni au Nord Kivu. Cette situation déplorable doit davantage interpeller notre gouvernement et tous ses partenaires. J'exhorte ces derniers à y trouver respectivement une solution rapide afin d'éviter le découragement d'autres combattants qui pourraient volontairement déposer les armes. Par ailleurs, les autorités congolaises doivent renforcer la vigilance et tout mettre en œuvre pour ne plus céder aux revendications pièges visant la réintégration de rebelles au sein des FARDC. Rappelez-vous, la RDC paye aujourd'hui un grand prix à cause des tristes opérations antérieures, notamment des brassages et mixages au sein de notre armée.
Fabien Munguza, comment vous réagissez à ce point de vue de Serge Mapendano, qui estime que le gouvernement ne devrait pas céder à la revendication de ses, aux revendications de ses ex-combattants?
Ah non, madame. Je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure pour une partie de ce qu'il a dit, notamment ce qui concerne la responsabilité du gouvernement, qui doit tout mettre en œuvre pour trouver la solution à ce problème-là. Mais dire qu'il ne faut pas réinsérer, n'est-ce pas, dans notre armée, tous nos frères et sœurs qui, à un moment donné, pour des raisons qui leur sont propres, justifiables ou pas justifiables, de ne pas les intégrer dans l'armée, je trouve que c'est un peu excessif. Ce sont des Congolais. On peut à un moment donné s'égarer et à un moment donné se retrouver et rentrer dans les droits chemins. Et donc, nous pouvons bien les prendre, mais il faut les mettre dans des conditions telles que c'est la situation que nous sommes en train de déplorer ne puisse pas arriver, ne puisse pas survenir, madame. C'est l'essentiel. Donc, tout homme, même nous qui sommes en train de parler maintenant, même le ministre, s'il se met à la place de ces gens-là, il ne tiendrait pas le langage qu'il est en train de tenir maintenant. Nous sommes éloignés des dures situations que ces gens, n'est-ce pas, ont connues. Et donc, notre environnement, notre contexte est tout à fait différent par rapport à ce qu'ils ont connu. Mais nous devons nous mettre à leur place. Essayer de faire neutre, n'est-ce pas, toutes les peines qu'ils ont endurées pour comprendre qu'à un moment donné, il est possible qu'ils puissent y réagir tels qu'ils ont réagi, madame. Donc, je comprends parfaitement leur réaction, mais je ne justifie pas la violence. Et donc, s'ils ont fait acte de repentance, il n'y a pas de raison pour que nous puissions les exclure du pays. Ils doivent recouvrer la plénitude de leurs droits, droits civiques, n'est-ce pas, pour qu'ils contribuent également à la reconstruction de notre pays.
Alors, Serge Mapendano dit aussi qu'il faut se rappeler de la triste expérience du brassage et mixage.
Oui, nous sommes passés par une crise qui n'a pas eu de pareil dans ce continent. C'était une guerre presque mondiale, madame. Et donc, il fallait des concessions aux uns et aux autres. Je voudrais dire que la République démocratique du Congo est un patrimoine commun qui appartient à tous les Congolais. Et donc, tous les Congolais doivent pouvoir jouir de tout ce qui est dans ce pays comme ressources, madame. Ils doivent jouir de tous leurs droits civiques et politiques, quelle que soit, n'est-ce pas, quelle que soit la situation qu'ils ont vécue à un moment donné. On n'a pas de choix, c'est un mécanisme qui avait été arrêté pour sortir de la situation de conflit que nous avons connu. Il suffit simplement de l'entourer de précautions pour que le mécanisme ne puisse pas déraper, comme, n'est-ce pas, nous sommes en train de le déplorer maintenant. Il faut donc un gouvernement sérieux, un gouvernement responsable, parce que gouverner, c'est aussi prévoir, madame. Et cette situation était prévisible. Avec un gouvernement suffisamment responsable, on n'en serait pas là. Voilà un peu, madame, par rapport à ces propos.
Monsieur le ministre, vous invite, monsieur Fabien Munguza, à aller avec lui à Kotakoli pour voir comment ces gens vivent.
D'accord, madame.
Vous êtes prêt à l'accompagner?
C'est le rôle de la société civile. C'est le rôle de la société civile. Mais ce que nous sommes en train de parler maintenant, c'est le passé. Nous avons des témoins sur place qui ont fait état des mauvaises conditions de vie, n'est-ce pas? Et ces mauvaises conditions de vie ont entraîné mort d'hommes, des dizaines et des dizaines. Et donc, si l'on a amélioré, eh bien, c'est une bonne chose, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour, en premier lieu, les concernés, et pour nous-mêmes aussi, parce que nous avons besoin de la paix dans ce pays.
Merci Fabien Munguza, Didier Bitaki. Il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
À mort de 6 mois du PCP à partir de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Le soulèvement de ces ex-combattants, suite à leurs conditions de vie déplorables, est une preuve que le gouvernement, en dépit de ses bons discours, mettre fin au phénomène des groupes armés n'est pas sa préoccupation, en abandonnant la population qui ne cesse de dénoncer les exactions de ces derniers à son triste sort. Comment peut-on encore convaincre d'autres combattants à quitter la forêt quand ils apprennent que leurs collègues se plaignent du traitement inhumain dont ils sont victimes? Si le bon texte de discours était l'applicabilité, la RDC serait aujourd'hui un paradis.
Didier Bitaki, réaction.
Voilà, je donne raison. Je pense que l'intervenant, disons, notre compatriote de Bukavu, n'a fait que répéter ce que je venais de dire tout à l'heure. Écoutez, la question se pose aujourd'hui avec sériosité. La République démocratique du Congo a connu de tristes expériences, comme elle a dit l'intervenant de Beni. Mais ces expériences nous ont permis à réunifier le pays, c'était ça l'objectif principal. Mais par rapport aux données techniques que le ministre aujourd'hui n'est pas capable de nous démontrer, où en est-on déjà après le lancement de ces opérations de DDRRR? C'est là les regrets que nous avons. Si vous vous rappelez bien, madame, en janvier 2015, Human Rights Watch a publié un rapport accablant qui dénonce les traitements inhumains, le mauvais traitement que subissaient ces combattants dans les cas de Kotakoli, avec des chiffres probants. Je ne sais pas, la FIDH et des ONG locales et internationales, autres que celles reconnues au Congo, ont eu à dénoncer cette situation. Si aujourd'hui la souffrance a poussé ces jeunes gens à se révolter, ce n'est pas de leur faute. Parce que l'instinct le plus automatique qui se développe chez l'être humain, c'est l'instinct de la défense. Et dans leur défense, étant dépourvu de tout autre moyen de recours, ils ont préféré se révolter pour faire entendre leur voix. Voilà un peu pourquoi est-ce que nous sommes en train de prodiguer conseil au ministre. Parler des chiffres, d'accord. Nous comprenons bien sûr que le ministre hérite d'une situation que lui-même n'a pas créée. Il est en train d'hériter ce que ses prédécesseurs ont eu à s'aimer et ce qui peut lui coûter cher aujourd'hui par rapport à son mandat et par rapport à son passage au ministre de la Défense. Moi, je pense qu'actuellement, la meilleure façon de régler cette question, c'est de poser la question à ces jeunes gens. Combien sont pour l'intégration de l'armée? Combien sont pour la démobilisation et l'intégration de la vie civile? En ce moment-là, on saura les scinder, les envoyer à Kitona, les envoyer à Kam. Ce ne sont pas des marchandises, c'est des êtres humains. Pourquoi ne pas les renvoyer dans des centres plus proches de chez eux, où ils pourront être réinsérés selon les techniques modernes liées à la démobilisation, parce qu'au moins
alors
on
vous
a une
parlez
expérience
beaucoup des techniques modernes
de ce domaine,
vous parlez...
et éviter qu'ils ne puissent encore se révolter à l'avenir.
Alors Didier Bitaki, vous parlez beaucoup des techniques modernes, je voulais dire. Quelles sont ces techniques, au fait?
Écoutez, ces techniques supposent la démobilisation. La démobilisation, c'est-à-dire la reddition et puis le dépôt de l'arme, l'abandon de la violence, la réintégration, c'est-à-dire soit dans les choix personnels, sur base du choix personnel du combattant, on lui dit, nous vous orientons vers, avant la réinsertion, on parle de la réorientation. Il s'oriente vers l'armée ou vers la vie civile. Si c'est vers la vie civile, il y a des projets de réinsertion qui doivent suivre. Si c'est vers l'armée, il y a une formation qu'il doit subir pour devenir militaire. Mais si on ne tient pas compte de cela, on les prend tous et on les embarque dans un avion, parce que ce sont des marchandises, on les amène à Kamina, à Kotakoli, je ne sais où.
Mais est-ce que ce n'est pas ça que le gouvernement fait, Didier Bitaki?
S'il vous plaît.
Mais est-ce que ce n'est pas ça que le gouvernement est en train de faire?
Non, mais
les techniques que vous avez évoquées.
Ça se fait où? Ça se fait où pour que ces jeunes gens se révoltent? Est-ce qu'ils acceptent l'armée ou ils sont dans la vie civile? Est-ce qu'ils sont pour la vie civile ou pour la vie militaire? Et si c'est la vie militaire, pourquoi on doit les maintenir 2 ans après dans des centres où ils ne sont ni intégrés dans l'armée, ni dans la vie civile, et ils n'ont pas de sort bien défini? Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de déterminer les conditions dans lesquelles ces jeunes gens doivent être encadrés. Soit on les ramène chez eux, et puis on les intègre là-bas. S'il n'y a pas de moyens, pourquoi alors porter des responsabilités qu'on ne sait pas peut-être prendre en charge dans l'avenir? Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de mettre fin au calvaire de ces gens. Peu importe les conditions dans lesquelles cela pourra se passer, mais il faut quand même les sécuriser, c'est des citoyens congolais.
Alors,
on ne peut pas en faire peut-être un sujet de discours ou de débat, non.
Voilà.
C'est des humains, il faut en prendre ça.
Merci Didier Bitaki, vous évoquez déjà les solutions à prendre. Monsieur le ministre Yakechi, qui nous écrit depuis Kisangani, il dit ceci, cette attitude décourageante ne donnera-t-elle pas raison aux autres groupes armés encore actifs et ex-combattants de ne pas faire la paix en boycottant la démobilisation?
C'est possible, madame, mais je voudrais d'abord remercier les amis et corriger quelque chose. J'ai lancé l'opération de DDR il y a seulement un mois. Et il y a une grande satisfaction...
La troisième phase.
Oui, la troisième phase, enfin, le DDR, 3. Il y a des nettes améliorations. Ces gens touchent même une prime. Ils mangent 3 fois par jour à Kamina et à Kitona. Et c'est vérifiable. Et c'est pour cela que j'ai accepté Je remercie M. Kitabi Bitaki qui a accepté l'invitation. Je voudrais inviter aussi M. Munguza. Parce que tout à l'heure aussi, il dit...
M. Munguza qui a accepté aussi l'invitation.
Oui. Ouais. Et c'est bientôt là. Parce qu'en fait, je regrette une incidence. Le programme de prendre ces jeunes gens de Kota Koli était établi déjà pour fin de ce mois. Et lorsqu'on va me voir à Kota Koli, on va dire, voilà, il a subi la pression. C'est ce que je me fais regretter. Mais c'était un planning qui était déjà bien établi. Et je voudrais que nous revenions ici avec M. Munguza et Bitaki pour reparler des conditions de ces jeunes gens-là. D'autre part, on insiste beaucoup sur l'expression « ils doivent rentrer chez eux ». Je voudrais rassurer tout le monde que ici, dans notre pays, partout, un Congolais peut habiter, largement, et totalement, globalement. Ensuite, tout le monde doit savoir que les meilleurs centres d'instruction se trouvent à Kitona, avec les infrastructures, évidemment, qui sont vieillissantes, mais qui ont été reprises par le SEC et la communauté internationale qui nous a aidés. À part Kitona, c'est Kamina. Donc, Kota Koli, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et ces jeunes gens-là...
Donc, il est urgent, monsieur le ministre,
ils savent, mais ils savent très bien, les jeunes, là, des choses. D'autre
mais
part...
Mais ça prend du temps.
Oui, évidemment. Ça devait prendre le temps, mais ça fait un mois. Moi, j'ai 6 mois au pouvoir, et ça fait un mois. Et tous les temps que j'ai passé, je me suis occupé de cette question-là. Rassembler l'argent, convaincre les partenaires internationaux pour qu'ils mettent de l'argent dans cette affaire, c'était pas une mince affaire.
Alors,
mais je voudrais aussi, je voudrais, madame, excusez-moi, parce qu'il y a une équivoque qui se crée ici. Notre programme ne prévoit pas que la réinsertion ou l'intégration, prévoit aussi toutes les études préalables. Vous savez qu'il y a des gens qui ont 59 ans, 60 ans parmi les gens, parmi les ex-combattants. Mais ces gens-là, vous les amenez dans l'armée pour faire quoi? Je vous dis aussi qu'il y a 30% des gens qui sont malades. Ils ont été examinés, ils ont été testés. Alors, nous avons pris 3 options. Il y a l'option où l'individu, à la fin de 3 mois de formation, il rentre avec son kit parce qu'il peut rentrer déjà menuisier ou agriculteur ou je ne sais pas moi quoi tailleur. Et ou alors ceux qui sont bons ne vont pas être intégrés dans l'armée mais être réinsérés dans le circuit de l'armée, c'est-à-dire qu'ils commencent par une formation. On ne va pas prendre des gens comme ça, ils viennent d'ailleurs, ils disent qu'ils sont colonels, et nous les mettons colonels.
Merci, monsieur le ministre, ça sera là aussi votre conclusion. Nous sommes désolés, on n'a plus beaucoup de temps. Fabien Munguza, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que pareille situation ne se reproduise?
Madame, je voudrais demander au gouvernement désormais de faire de la sécurité un problème prioritaire. Nous avons suivi une de vos émissions sur les dialogues où le gouverneur du Nord Kivu est intervenu à ce qu'on fait la sécurité. Chaque semaine, il y a une troïka économique qui se réunit. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de troïka de la sécurité, madame? Et donc, nous comprenons que le gouvernement, pour ce gouvernement, la sécurité est tout à fait secondaire. Mais pourtant, c'est la sécurité qui conditionne toute la vie de la nation. Il faut donc, pour aller dans ce sens-là, faire en sorte que la solution soit rapidement trouvée pour nos amis de Kota Koli.
Merci. Merci, M. Munguza. Didier Bitaki, en guise de conclusion, un mot.
En guise de conclusion, je dirais que nous sommes disposés à aider le ministre. Nous mettrons toute notre expertise à sa disposition pour l'aider à résoudre ce problème de groupes armés et de combattants démobilisés, afin que définitivement la paix soit restaurée et que tout le monde retrouve son compte dans les processus en cours que de se baser sur le clientélisme qui n'a produit que ce que nous vivons aujourd'hui.
Merci Didier Bitaki, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathé, Alain Rung, Biri Luchaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Mimi Kindou qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. 22 programmes sur la fréquence de la paix.